Bonjour à tous. Les 11 et 12 octobre dernier se tenaient au château de Goulaine les premières rencontres littéraires Plume de Loire, organisées par l'Association des Amis de Goulaine. Les auteurs invités reviennent sur ce grand fleuve qu'est la Loire et qui, pour la plupart, les a inspirés. Jacques Boilève.
Alors la Loire pour moi compte beaucoup. C'est d'abord mon paysage d'enfance et de naissance, hein, puisque je suis né à Saint-Florent-le-Vieil. J'ai en même temps passé beaucoup de temps à traverser la Loire, puisque maintenant j'habite sur la rive nord du côté de Varade. Donc la Loire m'est familière depuis très longtemps. Un jour, il y avait un salon littéraire à Québec, et j'ai dit devant vos collègues de Radio-Canada, j'aime tellement la Loire que chaque soir je couche dans son lit. Effectivement, j'habite une ancienne île de Loire. Et alors, il y a eu plusieurs circonstances. Le fait que la Loire m'est familière depuis l'enfance, certainement, mais le fait aussi qu'après, ayant été journaliste, j'ai choisi de m'intéresser de bout en bout à la Loire. Et là, c'était assez important et intéressant parce que j'ai pu connaître la période de reconquête de la Loire à un moment où, effectivement, tous les Ligériens, chambres de commerce, élus, se sont mobilisés pour reprendre en main le fleuve. Donc c'était dans les années 50 ou 60 peut-être, et à partir de là il y a tout ce mouvement de reconquête de la Loire qui a été trop loin, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment il s'agissait de faire des barrages, de faire des centrales, de faire etc. Et donc le fleuve risquait de devenir, comme ce fut le cas pour le Rhin ou pour le Rhône, des fleuves trop aménagé, trop bétonné, etc. Et donc j'ai connu aussi alors l'autre période, et qui a consisté ensuite effectivement à dire mais non, il faut que la Loire reste un fleuve vivant, naturel, donc que les saumons reviennent, que la végétation revienne, etc. Et alors il y a eu donc une sorte de contre-mouvement, et ce contre-mouvement s'est trouvé a trouvé son équilibre avec le plan Loire Grandeur Nature, et qui a pris en compte la nécessité de protéger les villes et les terres contre les inondations, mais en même temps aussi de prendre en compte la dimension naturelle du fleuve, sinon sauvage, parce que c'est un fleuve qui est civilisé depuis fort longtemps. Et donc, j'ai eu l'occasion de connaître aussi ce mouvement-là, jusque y compris le classement du Val de Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, je travaille justement avec les gens de la mission Val de Loire au sein de leur conseil scientifique pour donner toute cette dimension au fleuve. Donc, la Loire m'a été, à cause de mon métier de journaliste et de mon engagement associatif, à Saint-Florent, j'avais lancé dans les années, à la fin des années 70, un observatoire de la Loire, c'était le prototype des maisons de la Loire aujourd'hui. Donc je me suis intéressé à ce mouvement-là comme journaliste. Alors ensuite, il y a une seconde opportunité, et c'est que des colloques littéraires ont eu lieu à Angers, et le hasard a fait que j'ai retrouvé parmi le président et le responsable de ces colloques, Georges Chébron, mon ancien professeur, et donc il m'a, entre guillemets, embauché. Et là, j'ai eu l'occasion de suivre la Loire sous un tout autre aspect, l'aspect vu par les écrivains. Donc tout un volet que j'ai poursuivi jusqu'à maintenant, donc depuis une bonne vingtaine d'années, de recherche en littérature et particulièrement autour de la Loire. Donc ça m'a donné un autre champ d'intérêt. Et aujourd'hui encore, au sein du Conseil économique et social et environnemental de la région, je suis ce débat sur la Loire. Avant-hier, j'étais en pour les journées du Corella, et je vais aller bientôt à Tours où il y a d'autres réunions autour du plan Loire. Vous voyez, je continue de m'intéresser à ce fleuve-là, mais surtout quand j'ai un peu de temps, je vais me promener au bord de la Loire, je fais l'île Batailleuse, etc. Ce paysage-là continue de me parler. Dernier point peut-être au sujet de la Loire, j'ai eu l'occasion aussi de m'y intéresser à travers la photo. Et donc, il y a un certain nombre d'années, j'ai travaillé notamment sur le thème des couleurs de la Loire. Ça m'a amené à explorer la Loire de haut en bas, la photographier, l'exposer. Et donc, c'était une autre approche. Vous voyez, je suis un peu un inconditionnel.
Oui, j'allais dire que vous êtes une vie consacrée complètement à la Loire. Juste une question est très rapide pour vous laisser partir pour votre conférence. Si vous faites un bilan depuis tant d'années, depuis votre enfance, jugez-vous aujourd'hui que la Loire va mieux, qu'il y a des progrès, que toutes ces luttes justement menées comme des gens comme vous apportent quand même quelque chose ?
Alors, je crois qu'il faut espérer. Pour le moment, on pourrait dire effectivement, côté aménagement, y compris les aménagements pour restaurer le fleuve, que la Loire est en panne. Mais se dessine, me semble-t-il, effectivement, un mouvement de reconquête. On commence, après de très nombreuses études, à voir qu'effectivement, la Loire pourrait être reconquise, mais elle ne sera pas reconquise pour l'homme. Elle sera reconquise pour elle-même. Et effectivement, il semble qu'aujourd'hui, la dimension biologique, la dimension naturelle est prise en compte et qu'on redonne à la Loire sa possibilité de vivre sa propre vie. Ceci dit, moi, je continue de rester très attentif au fait qu'une Loire qui n'aurait plus sa vie propre, il n'y aurait plus de bateaux, plus de pêcheurs, etc., peut-être qu'à nouveau, on s'en désintéresserait. Et pour moi, je ne trouve pas séparable la Loire de l'estuaire du Val-de-Loire. Je crois que ça forme un tout. Et je suis très attentif aussi au fait que la Loire, historiquement, c'était les abbayes. Ensuite, ça a été les châteaux. Et qu'aujourd'hui, ce sont les villes. Et donc, effectivement, ces villes de Loire, à condition évidemment qu'elles aient une emprise naturelle, eh bien, me laissent entendre que, oui, l'avenir est devant nous et pour la Loire aussi.
Bertrand Gillet.
Alors la Loire, moi je connais la Loire entre Orléans et l'estuaire, disons, hein, donc je ne connais pas l'autre partie, enfin on ne connaît pas forcément les 1000 km de Loire. Alors pour moi la Loire c'est un paysage adoucissant. Et c'est d'ailleurs ce que disait Julien Gracq dans un de ses romans, il parlait du climat émolliant du Val-de-Loire, ça a tendance à endormir un peu les gens. C'est également ce que disait Claude Chabrol, le cinéaste qui a vécu longtemps à Gênes, près de Saumur, qui a vécu plus de 10 ans, de 90 à 2000 je crois. Et Claude Chabrol m'avait dit, que j'avais interviewé en tant que journaliste, m'avait dit un jour... voilà, j'ai acheté une maison en Val-de-Loire, mais j'ai pris soin de ne pas la mettre face à la Loire. Il habitait à Gênes, parce que ça m'empêchait de travailler. Alors moi, je suis un peu comme ça. Je crois que la Loire peut endormir les gens, et plus que ne le réveille. Voilà. Ceci dit, je fais quand même des remarques. Dans le temps, la Loire, c'était l'autoroute, hein, l'autoroute de la mer, enfin, c'était l'autoroute fluviale. Alors que maintenant, il y a le renouveau de la batellerie, mais ça a été un fleuve assez nerveux, la Loire. Hein. Et, bon, on dit que c'est toujours plus ou moins navigable, c'est vrai. Mais pour moi, la Loire est synonyme à la douceur, à la douceur angevine, douceur. Mais je ferai quand même une autre remarque, c'est que la Loire à Nantes me paraît un peu différente. À Nantes, il y a l'influence de la marée dans le côté ouest. Hein. En face, 30 moules, on voit que la marée va jusqu'à Nantes, elle va beaucoup plus loin, elle va jusqu'à Anceny, je crois.
Oui, on sent l'influence de l'océan, hein, donc il y a cette violence.
La Loire Atlantique, alors à Nantes, c'est un peu différent, puis il y a la grande ville aussi, hein, qui donne au contraire une impression de vivacité, de nervosité, de bouillonnement, qu'il n'y a pas dans le cours, disons, Saumurois, Tourangeau, peut-être, de la Loire.
Dis-nous, dans tes ouvrages, est-ce que la Loire apparaît ?
Évidemment, parce que mais j'en suis à mon 7e polar qui se passe en Vendée pour une fois. Mais mes autres polars sont liés à la Loire, 5 sur 6 je crois, parce qu'ils sont nantais tout simplement. Donc un polar nantais, ils sont influencés par le fleuve, on peut dire.
Hein. On peut imaginer que tout ouvrage, un polar ou pas, s'il a Nantes pour cadre, ce serait étonnant que la Loire n'apparaisse pas à un moment ou à un autre. Hein.
En plus, moi, j'ai toujours, le hasard de la vie en fait que j'ai toujours vécu en bord de Loire. Je suis né à Nantes. Hein. Bon, j'habite à Saumur parce que j'étais journaliste très longtemps à Saumur. Je parle un peu de Tours aussi. Donc, j'ai toujours. Ma vie est liée volontairement ou pas à la Loire. C'est comme ça.
Dernière question, Bertrand. Est-ce qu'il y a une anecdote, je dirais, ou un souvenir précis d'un événement quelconque qui te revient à l'esprit lorsqu'on évoque ce fleuve ?
Bah, j'en parlais il n'y a pas longtemps. Là, quand j'étais gamin, mes parents m'emmenaient à Château-Saut notamment. Les gens se baignaient. Et je me baignais aussi à Nantes. Moi, on arrivait encore à se baigner à l'époque. C'était pas ni interdit, ni pollué sans doute. Donc j'ai pris contact avec le fleuve très tôt, physiquement, on peut dire. Bien qu'on savait qu'il fallait quand même se méfier de la Loire, mais les gens se baignaient en Loire. Hein. Je ne sais pas s'il y avait des interdictions à l'époque. C'est bien qu'il y ait des interdictions, parce que c'est dangereux aussi hein, de se baigner. Les culs de grève sont dangereux. Mais la Loire, pour moi, c'est de... Ben voilà, on a la chance. Je crois que ça donne du sourire un peu. Enfin, pas du sourire, mais du... Ça embellit une ville, la Loire. Ça embellit un paysage. C'est l'eau, c'est le liquide.
C'est le cas de toutes les villes d'eau, hein, souvent.
Et en plus, alors, à Nantes, c'est extraordinaire, parce que la Loire est ligérienne, c'est le cas de dire. Et puis, elle est également maritime, atlantique, donc. Et donc, ça, il y a les deux côtés qui sont d'ailleurs qui se côtoient à Nantes. Hein. Côté est, c'est la Loire fluviale, et côté ouest, hein, c'est la Loire qui sent déjà la marée, la mer. Voilà.
Henri Wallick.
La Loire, bah, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord quelque chose qui est difficile à traverser. Hein, quand on vient de Bretagne, bah, y a la Loire, et puis il y a le Sud-Loire, c'est un autre monde. Voilà. Enfin, maintenant, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a des ponts un peu partout et puis on peut circuler quand même, quoi. Mais jusque-là, c'était pas une limite parce que ça rassemble un fleuve. Mais c'était quand même... Enfin, si, c'était une limite sur le plan climatique. Hein. Mais sinon, c'est quelque chose qui est difficile à traverser, quoi. Hein, par exemple, au pont de C, au ton des Gaulois, on utilisait les hauts fonds, les bancs de sable. Et puis on mettait des branchages, et sur les branchages, on accrochait des fagots, et on avait une espèce de pont primitif de ce genre, quoi. Voilà.
Vous n'avez pas habité forcément au bord de la Loire, vous ?
Non, jamais. J'ai découvert ça, surtout en allant me réfugier en Anjou au moment du départ en retraite. Hein, j'étais mis à l'écart. Hein, un retraité, c'est quelqu'un qu'on met de côté, et on le dit, on l'écrit d'ailleurs, hein, vous êtes hors des cadres, vous êtes rayé des cadres, bon. Alors donc, pour ne pas voir la rentrée se faire en étant mis à l'écart, je suis allé à Saint-Jean-des-Mauvrais, là, et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais nous aussi, on a des choses sur le patrimoine, vous pourriez nous écrire, nous faire quelque chose, puisque je leur avais dit que j'avais déjà réalisé un ouvrage ou deux, quoi. Alors c'est comme ça que ça a démarré. Alors si bien que ben, il a fallu regarder ce qu'était la Loire. Bon, et puis ensuite, c'est quand même un monde assez mystérieux quand on aborde la peinture. Hein, y a les brumes du matin, enfin tout ça c'est assez difficile à rendre. Et puis il y a quand même de temps en temps des paysages qui surgissent de la brume. Je n'ai pas d'exemple, mais quelquefois sur des châteaux, c'est Saint-Florent-sur-Loire, c'est des choses comme ça, quoi. Mais autrement, la Loire, c'est aussi quand même un monde qui fait peur, hein, puisque pour écrire ce livre Entre Loire et Layon, on m'avait prêté des ouvrages sur la Loire. Et il était question de bacs qui sont lisés, de gens qui se promenaient sur les culs de grève et puis qui disparaissaient. Enfin bref, c'est un monde difficile quand même, quoi. Mais alors, à côté de ça, c'est un monde qui rassemble terriblement. Et maintenant, on voit le flot touristique qui, en Bretagne, suit la côte et en France intérieure, en Ménanjou, si vous voulez, le flot touristique suit le fleuve. À tel point qu'à Montreuil-Bellay, on m'a demandé de réaliser un ouvrage sur le canton de Montreuil-Bellay, le patrimoine de Montreuil-Bellay et les environs, pour essayer de capter un peu de ce courant touristique, quoi.
Merci bien, Henri. Même si vous n'avez pas été très né au bord de la Loire, vous en avez gardé quand même des souvenirs. Ou même, c'est bien que vous ayez évoqué aussi les dangers de ce fleuve. On parle souvent de la douceur de la Loire dans certains cas. Quand elle approche de l'embouchure, ça devient aussi un peu plus sauvage. Hein.
Mais alors, c'est quand même un axe commercial extraordinaire, quoi. Pratiquement tous les produits sont passés par là, de l'embouchure jusqu'à Orléans, ce qui explique les chocolateries à Tours, par exemple. Ce qui explique tout un tas de choses. Et puis, finalement, le contrôle, quoi. Un personnage comme Duguesclin, par exemple, possédait un château sur le bord de la Loire. Hein, vous avez ce genre de phénomène-là, quand même. Et vous avez même... les Bretons qui sont allés, qui sont installés le long de la Loire, qui ont commercé et travaillé. Voilà pourquoi on trouve un Kirchopin à Bouchemaine, hein, authentique.
Elisabeth Chauvin.
Alors, mon activité se partage à parts égales entre la rédaction de biographies pour des particuliers et la correction de textes pour les auteurs.
Et donc, vous travaillez pour les auteurs, ils vous donnent les textes, ça se passe de quelle manière ?
Alors, ils me confient leurs textes. Je réalise une première lecture afin d'évaluer le travail à effectuer. Et ensuite, je propose un certain nombre de corrections et donc toujours en accord avec les auteurs.
C'est les gens viennent vers vous facilement ? C'est un métier qui est maintenant un peu plus connu, mais encore un peu méconnu quand même.
Alors oui, en l'occurrence, je fréquente de nombreux salons du livre et c'est là où je rencontre en premier lieu les auteurs et que je retrouve de salon en salon avec plaisir.
Est-ce que ça vous a jamais donné envie de, bah, d'écrire vous-même et de publier vous-même? Parce que c'est peut-être un peu frustrant, même si votre nom apparaît dans les ouvrages. Hein.
Alors pour moi, ça n'est pas frustrant du tout. Et en l'occurrence, je ne suis pas auteur. Je ne sais pas si j'écrirai un jour. Je pratique d'autres arts. Donc voilà.
Vous pratiquez quoi précisément?
Alors le piano et la peinture. Voilà.
Lorsque les auteurs viennent vous voir, ça peut être, on l'a dit, dans un but d'une publication limitée, peut-être pour un cercle familial ou professionnel ou autre. Est-ce que vous leur donnez aussi des conseils s'ils veulent aller plus loin dans une production plus large, ou au contraire, certains veulent peut-être aller produire très large et que vous vous revoyez un petit peu à la baisse? Ça se passe comment? Vous avez un rôle de conseil?
Alors en l'occurrence, je peux proposer aux personnes dont j'ai écrit la biographie de présenter leurs livres dans les salons du livre. Et certains, effectivement, souhaitent écrire leur vie pour apporter leur témoignage, souvent suite à des histoires assez douloureuses, et dans le but notamment d'aider les gens, s'ils le peuvent. Voilà, donc je leur propose de présenter leurs livres dans les salons, ainsi que sur mon site internet.
Alors là, vous êtes dans un salon un peu tourné un peu plus vers la Loire. Là, il n'y a rien de précis lié à la Loire, peut-être, Elisabeth?
Alors, précisément, non.
Et vous vivez où? C'est une indiscrétion, mais pour savoir si vous êtes loin du fleuve, la Loire, précisément.
Alors, je ne suis pas loin de la Loire. Je suis à une dizaine de kilomètres, même moins, à vol d'oiseau, installée à Saint-Léger-les-Vignes.
Ça, le fleuve, ça a une importance pour vous, ou moins que pour quelqu'un qui le voit s'écouler tous les jours?
Alors j'aime l'eau, j'aime la mer, j'aime les fleuves, j'aime l'eau en général, oui, source de vie.
Donc là, vous vous retrouvez un peu à la place d'un auteur, hein, derrière des livres qui sont pas les vôtres. Vous le faites ça souvent, ou c'est assez exceptionnel?
Alors non, je fréquente de nombreux salons. Enfin, de nombreux, tout est relatif, au moins une dizaine par an.
Donc, vous avez devant vous des livres que vous avez écrits pour le compte des auteurs qui sont signalés là. Hein.
Oui, oui, ce sont des livres que j'ai corrigés, hein, et donc que je présente avec plaisir. Hein.
Voilà. Bah, merci de nous avoir expliqué, Elisabeth, le rôle d'être écrivain public, puisque c'est le terme. Juste une dernière question. Vous pouvez aussi rédiger des courriers et autres. Je pense que c'est aussi une autre facette, hein, de votre métier.
Oui, il m'arrive qu'on me sollicite pour des rédactions de lettres. Hein. Absolument.
Albert Blanchard.
Alors, la Loire, pour moi, c'est la rive sud, c'est l'estuaire. C'est l'endroit où je suis né, le pèlerin. Et j'habite tout près, j'habite à Saint-Jean-de-Boiseau, à quelques kilomètres seulement. Autrement dit, je me suis guère écarté de l'estuaire et j'en suis très content. Pour moi, sans la Loire, ce ne serait pas vraiment d'autres endroits où je pourrais me plaire. Donc c'est là. Et à la retraite, quand la retraite est venue, à l'âge de 60 ans, je me suis mis à écrire. Ça fait maintenant presque 20 ans. Et je suis surtout axé sur la poésie. Je fais des concours nationaux, internationaux. J'ai eu quelques prix ici et là et qui m'ont encouragé. Et puis, je fais un autre genre d'écriture qui est la nouvelle. J'écris des nouvelles. La petite Jeanne, que de drôleries dans l'estuaire, que d'événements dans l'estuaire. Toujours attaché donc à mon estuaire. Et si j'écris de cette façon des histoires courtes, c'est pour distraire mon lecteur. C'est pour tant qu'à faire de changer de genre, de changer de la poésie pour passer à la nouvelle. Je veux distraire. C'est pourquoi à partir de faits vus, constaté, et ou de personnages connus, il y a donc une base. J'imagine, et je raconte ça avec de l'humour, parce que tant qu'à faire de changer de genre, de genre de poésie vers la nouvelle, j'essaie de distraire.
Vous me dites donc avoir habité en bord, très près de l'estuaire. Vous avez des souvenirs précis liés à la Loire ?
Oui, j'ai des histoires très, des histoires très précises, puisque je suis né avant l'occupation, en 1935. Donc j'ai connu le début de la guerre, là j'ai connu l'occupation. J'ai connu le temps d'autrefois avec les tous qui traversaient la Loire, les vieux bacs, les pêcheurs de Loire. Il n'y en a plus guère maintenant par rapport à la pollution. Et puis j'ai vu les bateaux monter, et quand j'étais enfant, j'avais une voisine qui me disait « Viens-tu, on va à la Loire, on va voir les bateaux monter ». À la marée montante, ils allaient sur Nantes. Donc j'ai toutes ces histoires familières avec aussi les paysans qui traversaient leurs bêtes quand arrivait le printemps et dont l'herbe fraîche en face sur les îles, comme on disait, au Nord-Loire. Hein, et ils les ramenaient, ces mêmes paysans ramenaient leurs bêtes avec des roseaux et du foin pour l'hiver quand arrivait le mois de septembre-octobre. Alors des pêcheurs, il n'y en a plus guère. Et il y avait aussi les civelles, la pêche aux civelles, bien connue dans la région, avec les pêcheurs qui allaient le soir tard avec leurs grands amis qu'ils plongeaient dans l'eau pour amener les civelles si chères de nos jours, si appréciées mais si chères. Et voilà à peu près les principes. Il y a aussi, pendant la guerre, le sabordage, enfin c'est plutôt le minage fait par les Allemands quand ils sont partis en 1944, en août 44, ils ont barré la Loire en faisant couler les bateaux, en sabordant les bateaux. Et ça, je m'en souviens très bien, on entendait les explosions. Et les bateaux coulaient par le fond.
Élie Durel.
La Loire, c'est tout pour moi. Je suis né à Saumur. Donc je suis un Ligérien, j'ai vécu à Angers, je vis maintenant à Nantes. J'ai vécu en Sologne, ce qui me rapprochait de Gien. Donc la Loire, je la connais dans une grande partie de son cours. Et pour moi, c'est mon enfance. C'est-à-dire que je suis né donc à Saumur, j'ai vécu en partie chez mes grands-parents à Saint-Hilaire-Saint-Florent, à l'embouchure de la Loire du Touet, une petite rivière. Et c'est là que j'ai appris à nager, par exemple. Hein. Il y avait une super plage qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui. Et pour moi, la Loire, j'avais donc à l'époque 7-8 ans, où j'ai découvert la Loire par mon grand-père qui était pêcheur professionnel. Et c'est un paradis, c'était extraordinaire.
J'ai l'impression, à interroger plusieurs personnes qui ont vécu en bord de Loire, on s'en lasse jamais, alors qu'on pourrait imaginer qu'ayant ça devant soi quasiment tous les jours, on finit par, entre guillemets, l'oublier. Et puis j'ai l'impression qu'au contraire, les gens restent foncièrement attachés au fleuve, à la rivière, aux affluents.
Absolument, parce que la Loire est attachante et elle est changeante. Elle est changeante effectivement au fil des saisons, c'est évident. Entre les crues, entre l'étiage, entre l'apparition progressive de ces plages dorées qui sont magnifiques. D'ailleurs, j'ai écrit un ouvrage, bon, c'est, malheureusement, ça relate une tragédie que j'ai vécue à peine 9 ans, mais c'est un hymne à la Loire. Dans le titre de l'ouvrage, il s'appelait « Romassonnade en Loire ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Et les choses se passent en particulier sur un îlot qui s'appelle le Buisson Rouge. Et mon grand-père m'avait expliqué pourquoi ce nom. Et en fait, cet îlot, lorsque le soleil se couche plein ouest, donc exactement dans l'axe de la Loire, il enflammait la végétation de cet îlot. Et effectivement, on aurait dit le Buisson Rouge, il portait bien son nom. Et c'est vraiment paradisiaque. Moi, j'ai découvert la Loire avant de découvrir la mer. Pourtant, la mer, j'avais à peu près le même âge, un petit peu avant. Mais la Loire m'a laissé beaucoup plus d'impression. Et j'en garde bien évidemment encore aujourd'hui que l'océan, que j'adore. Hein. Mais la Loire, c'est sublime. Des couchers de soleil, des couvertes de gamins sur les plages, la rencontre avec des animaux qu'on ne retrouve parfois plus maintenant, avec mon chien, avec mes chiens. Non, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'avoue que j'aurais souhaité à mes enfants de vivre ce que j'ai vécu dans mon enfance auprès de mes grands-parents en particulier, puisqu'ils habitaient tout près de ce magnifique fleuve. Et j'en garde... voilà, pour moi, Je ne peux pas me séparer, m'éloigner de la Loire. Si je suis retiré aujourd'hui, retraité à Nantes, ben, je ne suis pas très loin de la Loire.
Un mot, on peut aimer un endroit et en parler. Après, reste aussi qu'on ait envie d'écrire sur ce lieu. Ça a démarré il y a très longtemps.
Alors ça a démarré, le premier ouvrage que j'ai écrit en définitive, c'est sur mon père qui était grand résistant. C'est pas très éloigné de la Loire parce qu'il a créé le maquis de Sévol dans le nord de la Vienne. Entre Loudun et Mirebeau, c'est dans la région Champigny, hein, Champigny-sur-Veude. Ma mère était à Saumur, à Saint-Hilaire-Saint-Florent d'ailleurs, à la mairie de Saint-Hilaire-Saint-Florent pendant la guerre. Et donc c'était déjà une proximité à la fois avec le Thouet, qui était pour moi aussi important, et la Loire, à toute proximité. Donc l'écriture est venue comme cela, et déjà dans ce livre, j'évoque en partie cette rencontre avec la Loire, et je dois dire que ça m'a pris l'envie de continuer d'écrire sur la Loire, absolument. Oui, oui.
Alors là, vous avez expliqué hein, tout à l'heure un certain nombre, j'aime pas trop le terme anecdote parce que c'est la chose qu'on un peu facile à demander hein, quand on pose une question sur un lieu bien précis, mais est-ce que la Loire, ça, s'il y avait la définir en un mot, c'est quoi?
Alors la Loire, c'est difficile à définir. On pourrait donner un 10, 20, 30 qualificatifs sur la Loire. Des poètes l'ont dit beaucoup mieux que moi. Et d'ailleurs, parfois, je les ai cités. Pour moi, la Loire, j'évoquais tout à l'heure une tragédie que j'ai vécue. Je ne devrais pas être de ce monde aujourd'hui. La Loire aurait dû me prendre. J'aurais dû mourir plusieurs fois en Loire, vu ce que j'ai pu faire seul, dans des conditions assez, assez incroyables. Donc pour moi, la Loire est une mère protectrice. Voilà, voilà, c'est une mère protectrice à qui je dois tout. Et si j'ai pu faire face à cette tragédie, pour tout dire, j'ai perdu mes grands-parents, mon frère et une petite fille d'ailleurs dans des conditions terribles, pas liées à la Loire. Mais j'ai surmonté cela mieux que quiconque dans ma famille grâce à la Loire. Absolument, parce que j'ai vécu ce que j'ai appelé tout à l'heure ces romassonnades et qui m'ont écarté d'une souffrance terrible.
Alors, dernière question, Élie. Tout dernièrement, vous avez fait une infidélité à la Loire en allant vers une de ses voisines qui s'appelle l'Erdre.
Oui, enfin, une affinité pas tellement, puis c'est quand même un affluent de la Loire, même si maintenant on a du mal à l'imaginer, puisque dans les années 1920, pour des raisons effectivement que d'aucuns connaissent, hein, c'est-à-dire les risques de crue de la Loire, et puis en particulier la crue qui n'était pas extraordinaire d'ailleurs de 1910. Là, on est au château de Goulaine, par exemple, on a accès au château de Goulaine par une allée d'à peu près un kilomètre, et bien au milieu de l'allée, il y a une borne qui marque là où l'eau est montée, donc ça paraît assez incroyable quand on voit cela, et c'est la rupture d'allée d'Ivat. Le cours de l'Erdre a été comblé dans ce qui est aujourd'hui le cours de 50 otages, et qui arrivait au bras de la Loire, qui s'appelait le bras de la Bourse. Hein. Et l'Erdre, maintenant, est canalisé dans un tunnel et ressort à l'écluse de Saint-Félix. Hein. Donc, ce n'est pas franchement une infidélité. J'avoue que quand l'éditeur m'a demandé, à partir de photos extraordinaires, toujours de Francis Gardeur, de faire cet ouvrage sur l'Erdre, banco, parce que je n'étais pas écarté de la Loire. Et puis en plus, je connaissais un petit peu l'Erdre, bien sûr, au moins jusqu'à Neure-sur-Erdre. C'est une rivière qui a la réputation de la plus belle rivière de France, c'est François Ier qui a dit cela, et c'est vrai. Et c'est une rivière, ce qu'on appelle une rivière de barrage. C'est-à-dire qu'on doit à l'évêque de Nantes, Saint-Félix, au 5e siècle, si je ne m'abuse, d'avoir fait construire un seuil qui relevait le niveau de l'Erdre d'à peu près un mètre. Donc l'Erdre est très peu profonde comme rivière, un mètre cinquante, pas plus. Et comme il y avait une zone plutôt un peu marécageuse, basse par rapport à la Loire, eh bien ça s'est un peu étalé. Et maintenant, on a une rivière jusqu'à Neure-sur-Erdre qui est magnifique, avec une protection. Dès qu'on sort de Nantes, au nord de Nantes, on est dans la campagne. Et ça ne sera jamais construit. Maintenant, c'est protégé.
Je remercie particulièrement l'Association des Amis de Goulaines et notamment Serge Dohain et Marion Leparoux pour leur accueil et leur complicité durant ces rencontres littéraires. Je remercie également Manu d'Alternante FM pour le montage de cette émission.